pochette surprise sur RVR.
Il est des accessoires en apparence ordinaire qui ont certes une utilité, mais aussi surtout une histoire étonnante derrière laquelle se cachent des symboles, des anecdotes, toute une poésie. Il en est ainsi derrière chaque objet, m'objecteriez-vous ? Il est temps, dans Pochette Surprise, de se pencher sur ces objets qui tendent peu à peu à disparaître de notre quotidien numérisé, connecté, virtuel et, en un mot, dématérialisé. Des objets qui, à foison, ont fait depuis 200 ans les beaux jours de l'industrie, du capitalisme, de la société de consommation dont nous sommes au fond les premiers adeptes. Des casseroles, des casques, des cravates, des couteaux, des chapeaux, des masques, des cuvettes, des baguettes, bref, tout un tas de bricoles, la liste est bien sûr infinie et loin de moi l'idée de l'adresser ici. Intéressons-nous seulement à quatre objets, quatre silhouettes familières qui ont traversé les siècles plus ou moins discrètement. Les cannes, les parapluies, les parasols et les ombrelles. Anodins, banals, désuets, encombrants, ils racontent chacun une attitude du corps face au monde. Une façon de se soutenir, de s'abriter, de se protéger, de se distinguer. Derrière ces objets du quotidien se cache un récit, une hiérarchie, une mode, un geste, une époque, une manière d'habiter le monde.
Je me trouve ici, faire du parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je voyais Dieu, grandeur nature, et c'était elle. Glissant sur les toitures, la divine pluie du ciel.
Moi j'étais la sueur qui court. J'étais comme caillou qui roule.
Étourdi dessus, dessous, dedans, devant. J'étais le blanc devant l'or.
Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule.
Je me trouve ici perdu dans la terre aride. Oui, j'étais rempli d'amour, elle en était vide. Puisqu'elle m'en avait tant donné au coin d'une rue. Quand elle m'a ramassé comme un objet perdu. J'étais piano désaccordé qu'on échange. Elle, c'était l'orchestre des anges sur l'aile des maisons.
Et moi Mozart qui s'écroule.
J'étais comme caillou, qui roule. Étourdi dessus, dessous, dedans, devant. J'étais le pont devant l'or.
Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule. Étourdi comme caillou qui roule.
Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus. Je me trouve ici perdu parmi ces parapluies. Dans le 15e, ceux qui les sèment s'y trouvent aussi. Au bureau des objets trouvés au coin d'une rue. Désemparé, je suis comme ces objets perdus.
La canne, entre autorité et élégance, n'est pas née pour soutenir uniquement les corps fatigués. Ce bâton, plus ou moins ouvragé, a connu d'innombrables fonctions au cours des siècles. Canne à épée, arme blanche, elle est aussi instrument de mesure, car elle peut indiquer l'heure par rapport à la hauteur du soleil, sans oublier bien sûr la canne à pêche ou la canne de parade. Enfin, on se souvient que c'est avec ce genre de bâton que Moïse a levé pour écarter la mer Rouge, offrant un passage salvateur à son peuple poursuivi par l'armée du Pharaon. Vous avez pu voir ceci dans « Les Dix Commandements », ce fameux film de Cécile B. 2000. Tout de même, c'est un signe, un symbole de pouvoir, la canne, de protection, un sceptre qui accompagne les rois, une crosse, les évêques, une houlette, les bergers, les pèlerins aussi, tous dans une quête verticale d'autorité.
Thank you.
C'est au XVIIe siècle que la canne devient un accessoire de mode. À la cour de Louis XIV, elle se porte même comme un bijou. Sculptée, ornée d'or ou d'ivoire, elle accompagne le geste et la parole, elle donne de la prestance. Lully, le musicien du roi Soleil, se déplaçait toujours avec sa grande canne et avec elle, il battait la mesure sur le sol. Mais un jour, il se rata et cela lui coûta la vie après s'en être asséné un mauvais coup sur le gros orteil. Et ne voulant pas se faire amputer, eh bien, il mourut de gangrène. Au XIXe siècle, la canne envahit les boulevards parisiens. Les dandys ne sortent jamais sans elle. Elle sert à saluer, à montrer, à rythmer la marche ou la parole. Le comte Robert de Montesquiou de Fezensac, en 1897, a laissé à la postérité un célèbre tableau. C'est un portrait de lui où sa canne à pommeau bleu semble vivante entre sa main. En tout cas, elle accentue de façon évidente son élégance et son autorité. Mais ce serait trop banal, dans ce siècle si inventif et fantasque, que de posséder une canne seulement pour la montrer. Certaines, grâce à un système ingénieux, contiennent des fioles de rhum, des lunettes, des périscopes, des trompettes, des appareils photos ou encore tout un attirail pour le pique-nique. Mais gare à celle qui cachait une lame, un pistolet, un fusil. Alors canne, arme du crime, souvenez-vous de la canne épée de John Steed dans Chapeau melon et bottes de cuir. La manufacture des armécycles de Saint-Étienne a longtemps proposé dans son catalogue des fusils, bien sûr, mais aussi justement des cannes fusils, des cannes pistolets et même des cannes mitrailleuses. On appelait fléaux ces armes qui contenaient des lames de rasoir ou des couteaux pointus qui jaillissaient sur une simple pression du pouce. Il existait une canne diabolique qui possédait dans son fût de métal pas moins de 9 dards. Et il ne fallait pas tirer sa poignée trop brusquement au risque de se faire déchiqueter la main. Il faut préciser aussi que cette canne faisait office de coffre-fort et pouvait contenir jusqu'à 50 louis d'or. Peut-être une des armes favorites de Larsen.
Vous écoutez Pochette Surprise sur RVR.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans scène, à l'arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans un y croche, Larsen. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, Larsen. Avec son parapluie, sa moustache mise en pli, Larsen. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, Larsen. Irrésistible, et parfois invisible, le bel Arsène. C'est un persan de coffre-fort, c'est un cassin de joli cœur, le redresseur de tous les torts, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et s'en sorcelle, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombes. Il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Arsène.
Le centre de recherche sur la canne et le bâton, eh oui, ça existe, nous apprend que l'empereur Charlemagne, pour montrer sa puissance, avait coutume de se déplacer déjà avec une grande canne en bois de pommier surmontée d'un pommeau d'or et enrichie de fines ciselures. Ce symbole de pouvoir fut également adopté par l'Église, la crosse de l'évêque, on en parlait tout à l'heure, toujours ornée de pierres précieuses pour impressionner les foules. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur un autocollant que tout le monde a déjà vu, apposé sur les pare-brises de certains véhicules. Alors on y voit un petit bâton surmonté d'un aigle qu'entourent deux serpents arrondis. Vous avez deviné, l'emblème des professionnels de santé. Et ce depuis l'Antiquité, le caducée bien sûr. Caducée qui signifie bâton de héros. Bâton de héros, H-E-R-A-U-T. Ou bâton d'un messager, si vous préférez, en référence à Hermès, le messager des dieux. Selon la légende, il aurait séparé avec son bâton deux serpents en lutte, et ceux-ci s'y seraient ensuite enroulés en signe de paix. Le caducée devient alors un symbole d'équilibre et de conciliation. À noter qu'en médecine, c'est plutôt le caducée avec un seul serpent et sans ailes qui est le vrai symbole traditionnel. Depuis que l'homme élève du bétail, depuis qu'il garde des troupeaux, il se sert d'un bâton. Non seulement ça l'aide à marcher sur les sentiers rocailleux, mais pareillement équipé, il arrive à mieux diriger les bêtes. Et c'est ainsi que les cannes de berger figurent en bonne place dans les collections d'art populaire de tous les pays et de toutes les époques. On appelle houlette le bâton de berger long et mince. Il se termine par une sorte de spatule ou de crochet et ça permettait justement de ramasser les mottes de terre qu'on projetait ensuite devant les bêtes pour les diriger sur tel ou tel chemin. Chaque berger possède sa propre canne, le plus souvent sculptée d'un signe personnel. Ainsi, un berger des Bouches-du-Rhône avait sculpté deux têtes de femmes dans un cœur sur la poignée et sur tout le bâton, l'itinéraire du Tour de France de 1951. Et oui, il avait dessiné le peloton, le public, les échappés, bref, le tout enroulé en spirale de bas en haut.
Arrivent avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes s'arrêtent pour nous boire de l'eau, se mettent à danser à l'ombre d'un pipeau, les bergers. Entre l'an et de vieux, entre l'an et de sages, qui appellent au puits tous les vieux du village, les bergers. Ceux-là ont des histoires à nous faire telle peur que pour trois nuits au moins nous rêvons des frayeurs, des bergers. Ils ont les mêmes rides et les mêmes compagnes et les mêmes senteurs que leurs vieilles montagnes, les bergers. Entre l'an et de beau, qui appelle les filles à faire le gros dos, les bergers. Ceux-là ont des sourires qu'on dirait une fleur et des éclats de rire à faire jaillir de l'eau, les bergers. Ceux-là ont des regards à vous brûler la peau, à vous défiancer, à vous clouer le cœur, les bergers. Qu'on soit fille ou garçon, les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons, les bergers. Alors nous partageons le vin et le fromage et nous croyons une heure faire partie du voyage des bergers. C'est un peu comme Noël, Noël et ses trésors qui s'arrêteraient chez nous aux équinoxes d'or, les bergers. Après ça, ils s'en vont avec leurs grands chapeaux et leurs manteaux de laine que suivent leurs troupeaux, les bergers. Ils montent du printemps quand s'allongent les jours ou brûlés par l'été descendent vers les bourgs, les bergers. Quand leurs bêtes ont fini de nous boire notre eau, se remettent en route à l'ombre d'un pipeau, les bergers, les bergers.
Restons encore un peu dans les cannes à système du 19e siècle ou cannes à surprise. Elles recelaient vraiment d'incroyables secrets. Alors, outre des fiasques d'absinthe avec deux petits verres, outre une petite visionneuse qui permettait entre autres à Toulouse-Lautrec de se rincer l'œil, le catalogue Manu France dont je parlais tout à l'heure proposait aussi à la vente, dans une canne, une véritable canne à pêche dissimulée avec son petit dévidoir à fil et son flotteur effilé. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour qu'un système télescopique de 3 mètres de long permette de s'adonner à son loisir préféré. Il existait aussi une astucieuse canne à grenouille montée avec une lance, pouvant atteindre 2,50 m pour attraper les grenouilles et même des poissons. En 1910 arrive une nouveauté intéressante, c'est une canne qui boit. Alors, ça n'est pas un article de farce et attrape, loin de là. Cette canne était destinée en fait aux représentants en vin et spiritueux qui, vous le savez, sont amenés à boire avec leurs clients assez fréquemment. Alors munis de cette canne, ils peuvent discrètement placer dans le bout de la poignée le liquide à escamoter, hein, il suffisait d'appuyer sur un levier, et par un dispositif ingénieux, cette canne faisait office de siphon. Et pour écouler le contenu, on plaçait l'embout, par exemple, entre deux pavés et on dévissait. Très apprécié des voyageurs en liquide, c'est ainsi qu'on appelait ces représentants, qui devaient boire beaucoup dans la journée pour ne pas froisser les débitants de boissons. Alors cette canne fut fabriquée jusqu'en 1915, on peut la voir donc dans le catalogue Manu France. Il est vrai qu'après la guerre de 14, eh bien, la canne glisse peu à peu dans l'oubli et la fragilité, n'accompagnant le plus souvent que les pas hésitants et les petits pas de Zebda.
Si c'est debout qu'on danse, le logo n'était pas Made in France. Mais c'est peu dire qu'on a fait un tabac. Dans les bois du fallait rentrer profil bas. Car à l'entrée, ils sont jamais compris que la misère fut la raison d'être funké.
Des petits pas de danse, des petits pas, des petits pas de danse, funké. Des petits pas de danse, des pas de star, pas de star.
Oh,
Parlons à présent d'un des objets les plus fidèles, à condition de ne jamais le quitter des yeux, ce qu'on ne fait jamais, et c'est peut-être la raison pour laquelle on le perd, on l'oublie, et il disparaît quand on en a vraiment besoin. Alors on peut dire qu'il circule, qu'il voyage, qu'il vit sa vie, on le prête à droite à gauche sans espoir de retour, on le récupère sans savoir à qui il appartient vraiment. Modeste, pliable, nerveux, solide, il se retourne parfois, et trop facilement. En tout cas, il dégouline toujours sans scrupule le parapluie. Ce n'est pas seulement un objet banal, c'est une expérience, une relation fragile qui nous échappe souvent, et surtout quand il pleut.
Il pleut, les pépins, tristes compagnons, comme l'immense champignon, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez. Il pleut, comme dirigé par un appel, les oiseaux désertent le ciel, nuages et lourds. Les fenêtres, une larme à l'œil, semble toute porter le deuil des beaux jours. Il pleut et l'on entend des clapotis. La ville n'a plus d'harmonie. Solitaires les rues s'ennuient. Il pleut. J'écoute quand ces gouttes, la pluie qui me dégoûte sur les chemins, les routes et partout alentour. Les gouttes qui s'en foutent ne savent pas sans doute que mon cœur en déroute a perdu son amour. Il pleut, les pépins, tristes compagnons, comme d'immenses champignons, sortent un par un des maisons. Il pleut, et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées, les gouttières ont la goutte au nez. Il pleut, la nature est chargée d'ennui, là-haut tout est vêtu de gris, le ciel est boudeur, le nez aplati au carreau. J'attends laissant couler le flot de mes pleurs. Il pleut dans mon cœur au rêve perdu, sur mon amour comme dans la rue, et sur mes peines sans issue. Il pleut.
Au début de l'histoire, les hommes ne cherchent pas à résister à la pluie, ils ne cherchent pas à s'en protéger, et c'était même mal vu de s'en protéger, car on se devait d'affronter les éléments si on était un homme. Et si l'on devait se prémunir de quelque chose, c'était plutôt du soleil. Alors, là encore, avec un attribut symbole de pouvoir et de prestige, j'ai nommé le parasol. Apparu plus de 3000 ans avant notre ère, les rois assyriens, les pharaons se déplaçaient sur leurs chariots tirés par des chevaux à l'abri d'imposants et magnifiques parasols. En Inde et en Extrême-Orient, on retrouve cette habitude de se protéger avec d'immenses parasols, tout simplement à cause d'un soleil omniprésent. Et ce sont d'ailleurs les parasols qui ont donné cette forme de cône renversée au toit des temples. Il faut dire aussi que l'on recherchait l'ombre. L'ombre, signe de fertilité, pour montrer à la fois son pouvoir de génération et sa force. L'idée de porter une ombrelle arrive aussi très vite pour se préserver, pour préserver une peau blanche, simplement pour montrer qu'on ne travaille pas au soleil et donc qu'on est issu d'un autre rang social. La peau pâle est resté très longtemps comme un marqueur social, un signe de distinction, Puis, peu à peu, dans le courant du XXe siècle, le soleil n'est plus un ennemi, c'est plutôt un allié qui va reléguer l'ombrelle aux armoires des antiquaires. Elle est visible d'ailleurs seulement dans les tableaux des impressionnistes accompagnant les femmes dans leurs promenades l'été, sur la plage, pendant les vacances. Le parasol va connaître une autre carrière. Il change d'échelle au XXe siècle. Désormais, il va protéger une tablée, une terrasse, une famille, non plus réservée à l'élite, mais accessible à tous. Avec les premiers congés payés, il fait son apparition sur les plages en 1936 et devient le symbole des vacances standardisées. Il protège du soleil et rentre dans la mythologie des loisirs, de la démocratisation du confort, désormais fabriqué en série et support de publicité. Le parapluie, lui, a mis plus de temps à s'imposer que le parasol. Lorsqu'il fait son apparition en France, dans les années 1550, il n'avait que très peu de points communs avec le parapluie fin, sobre et noir du gentleman anglais. C'était plutôt un meuble, oui. Un de ces meubles de famille qu'on se transmettait comme un coffre de mariage ou une armoire de génération en génération. Son manche était en bois de frêne, de chêne ou de palissandre. Il mesurait au moins 1,20 m et avait une dizaine de baleines, de véritables fanons de baleines, de 80 cm de long à peu près, et avec un gros anneau de cuivre à l'extrémité pour pouvoir le porter. Et sa carcasse était en cuir ou en toile cirée, et le tout pesait pas moins de 2 kg. Il était fabriqué à Paris, puis expédié ensuite à des détaillants qui les complétaient en faisant choisir à leurs clients la couverture. Et c'est en Auvergne que l'on trouvait le plus souvent les meilleurs artisans de parapluies. Au cours du XVIIIe siècle, il est perçu comme un accessoire plutôt féminin, un objet étrange, et on s'en moque. Montaigne, d'ailleurs, estimait que cet objet était davantage une charge pour le bras qu'une protection pour la tête.
Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde. Les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde, ce jour-là. La triste terre rouge qui craque, craque à l'infini, et les branches nues où rien ne bouge se gorgeront de pluie, et le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis, et je t'en roule, roulerai de bagues et de colliers jolis, jolis. Où est le jour où la pluie viendra? Nous serons, toi et moi, les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde. Les plus beaux fruits du monde, ce jour-là, ce jour-là.
Pochette surprise sur RVR.
La première distinction entre parapluie et parasol apparaît tardivement dans l'encyclopédie Diderot d'Alembert au XVIIIe siècle. Le parapluie était couvert de toile cirée, on l'a dit, et l'ombrelle, plus petite, de soie. Les parapluies, que les Chinois connaissaient depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ, et dont on se servait aussi bien pour se prémunir de la pluie que du soleil ou des mouches, et a également servi de parachute. Le fils d'un empereur assez cruel avait été enfermé dans une tour avant qu'on y mette le feu. Mais il put s'en échapper après avoir réuni plusieurs parasols coniques pour sauter de la tour en flammes. Plus près de nous, un général français, prisonnier des Autrichiens en 1793, s'échappa d'une forteresse à l'aide de deux parapluies qui ont amorti sa chute 30 mètres plus bas. Montgolfier, avant de mettre au point la montgolfière, fit des essais avec une ombrelle géante de plus de 2 mètres sur laquelle il fixa une nacelle et dans laquelle il fit s'envoler un chien.
Raindrop raindrops keep falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, oh, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, oh, I'm gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing worries. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, oh, I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worse.
Puis le parapluie va devenir indispensable, surtout dans les villes, les grandes villes industrielles. Et à Londres, où la pluie est quotidienne, le parapluie se révèle vite un ami secourable. Un petit toit portatif et personnel dans la foule anonyme. Objet intime qui facilite de fait le rapprochement des corps, le parapluie va protéger aussi les confidences et revêtir une dimension sociale. On se souvient bien sûr du petit coin de paradis sous un coin de parapluie de Brassens ou encore du parapluie pour deux de Thomas Fersen. Un parapluie qui a bel et bien existé avec deux branches distinctes aboutissant sur une même poignée et une couverture à double pavillon permettant effectivement un abri plus spacieux contre les intempéries.
J'habite au sixième, une chambre sans vue. À la semaine ou la rue, je laisse mes quatre murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour deux. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Je descends sans lumière à cause du propriétaire. Crédit est mort, je paye au lance-pierre. Je laisse mes quatre murs entre eux. Quand le ciel est bleu, je prends un parapluie pour deux. Quand le ciel est pluvieux, avec toi, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. On rencontre des gens qui vous dévisagent sans desserrer les dents. Je descends 4 à 4 quand le ciel est bleu. Je descends sur la rampe quand le ciel est pluvieux. pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Ici la brique est rousse et les murs sont noirs et les filles sont douces sur ces fonds repoussoirs. Je laisse mes quatre murs entre eux pour les mauvais trottoirs. Je prends un parapluie pour deux s'il commence à pleuvoir. Allez viens, on n'est pas pieds nus pour aller dans la rue. On n'est pas pieds nus. Allez viens. On n'est pas bien nus pour aller dans la rue. On n'est pas bien nus.
Mais les parapluies ne servent pas qu'en temps de pluie. Un jeune Lyonnais, un peu culotté, débrouillard en tout cas, monta à Paris en 1830 et vendit aux quatre coins de la capitale des foulards, des cravates, des lacets ou des ceintures qu'il proposait tout simplement dans des parapluies renversés. Et son affaire marchait assez bien quand il eut l'idée d'installer des vendeurs un peu partout dans Paris, à l'angle d'un pont, d'un carrefour, sur une place. Alors il constata bien vite que l'emplacement qui marchait le mieux se trouvait rue de Rivoli, justement à l'angle de la rue du Temple. Et des années plus tard, quand ses ventes aux parapluies lui permirent d'amasser assez d'argent pour acheter une boutique, eh bien il s'installa là, rue de Rivoli, juste en face de l'hôtel de ville. Il s'appelait Xavier Ruel et il a fondé le BHV. La méthode de vente en parapluie avait porté ses fruits.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard. Et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou. En deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il l'entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons.
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, à marcher dans le sang. Puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues.
Monsieur William, vous manquez de tenue. Vous êtes mort dans la 13e avenue.
Canne, ombrelle, parasol, parapluie, quatre objets simples, quatre histoires, quatre manières de se tenir face au monde, de marcher, de se protéger, de se distinguer. Aujourd'hui, ils disparaissent peu à peu de nos gestes quotidiens, ou disons qu'ils deviennent invisibles, remplacés, relégués, oubliés, négligés. On s'aperçoit souvent qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de parler à quelqu'un, d'avoir un interlocuteur, un vrai face à soi, car les messages sans poids envoyés par téléphone ne suffisent pas. Eh bien, avec les objets, c'est un peu pareil. Nos mains sont à la recherche de tangibles. Ne touche-t-on pas son téléphone pour vérifier qu'il est bien là plusieurs fois par jour et que nous sommes bien reliés au monde ? On s'aperçoit finalement qu'on a vraiment besoin de toucher, d'avoir un objet à tenir et un objet à quoi l'on tient, même s'il n'a pas une grande valeur. On peut le perdre ou l'oublier. Mais quand on l'a dans la main, on est comme rassuré. Que ce soit une canne, un bâton, un parapluie, un gobelet, un bracelet, un goodie, il nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des esprits, mais parce qu'au milieu de ce monde virtuel, pris dans un flux invisible qui nous dépasse, nous avons besoin de sentir le monde entre nos doigts.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir ? Que vont-ils devenir ? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils, pour quel jardin, je n'en sais rien. Qui lira ses bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir, et les habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là. Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens, pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes ni la cigarette
et la maison qu'il achètera et le gazon qu'il...
Sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront, puis un jour ils mourront et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien, je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens.
Pochette surprise avec quelques objets du quotidien, parasol, parapluie, cannes et ombrelles, c'est terminé. Nous nous retrouvons sur RVR la semaine prochaine pour explorer un autre thème en chanson. Bonne semaine à toutes et à tous.